La BD U-Town, publiée aux éditions Front Froid dans la collection Nouvelle Adresse, a remporté récemment le prix BD-Lis de la meilleure œuvre québécoise au plus récent Festival BD de Montréal. Et cette BD est une création de la BDiste et illustratrice CAB, C-A-B, et elle prend bien soin de dire en passant, c'est CAB en minuscule, pas CAB, C-A-B en majuscule. Bonjour CAB.
Bonjour, merci de la spécificité.
Mais c'est important, il faut respecter ça. Et CAB, bon, j'imagine qu'on vous pose toujours cette question-là, c'est, ça s'est imposé quand et comment?
Le nom?
Oui.
En fait, c'est super simple, c'est les deux premières lettres de mon prénom, c'est la dernière lettre de mon nom de famille, c'est aussi simple que ça.
Aussi simple que ça.
Ça vient du fait que quand j'ai commencé à dessiner comme un peu comme un hobby, je mettais beaucoup mes dessins sur Internet. C'était un peu à l'époque qu'on était réticents à utiliser nos vrais noms. Alors, j'ai décidé de choisir un nom qui était simple, facile à retenir, puis qui ne voulait pas dire quoi que ce soit, en fait.
Bon, et c'est resté.
Et c'est resté.
Et CAB, bravo pour ce prix BD-Lis. Est-ce que vous vous attendiez à gagner? Question un peu cliché, mais quand même.
Pas du tout. En plus, j'étais en compétition avec ma meilleure amie, Boum.
Oui.
Avec qui je dessine quasiment collée à la hanche depuis des années. Puis quand on a appris qu'on était les deux en nomination, bon, on était excités l'une pour l'autre. Honnêtement, je pensais que c'était elle qui était pour gagner parce qu'elle avait déjà raflé un prix à Québec. Alors, je n'y attendais pas vraiment, j'avais rien préparé, mais j'étais très contente.
Boum, qui a créé La Méduse, qui est aussi
exactement.
Une BD assez magnifique, qui était contente pour vous, j'imagine.
Ah oh, oui, apparemment, quand elle a gagné son prix à Québec, je me suis levée, on a fait pleurer la salle, puis je pense qu'on a fait la même chose à Montréal, mais vice-versa.
Et aussi, à la fin du roman graphique ou de votre BD, vous remerciez Boum pour son soutien.
Ah oui. Je pense que on célèbre pas assez les duos ou les trios, mais surtout les duos dans le monde de l'art, ben en tout cas de la BD, mais il y a beaucoup de d'œuvres et de collaborations, même s'ils ne voient pas le jour dans un livre en tant que tel, qui sont vraiment essentielles, parce que même si on dit que c'est un métier qui est solitaire, je pense qu'on a beaucoup à gagner à se tenir ensemble et de trouver quelqu'un qui nous supporte dans notre pratique. Puis, Boum, elle tient ce rôle-là depuis que j'ai 15
ans. Ah oui. Est-ce que vous avez beaucoup de liens, d'amis dans le milieu de la BD?
Ben en fait, oui, c'est un petit milieu. Alors, de fil en aiguille, on finit par se reconnaître dans les festivals, dans les salons. Puis c'est comme ça qu'on crée des liens. Moi, je sais que personnellement, j'ai beaucoup d'amis qui habitent dans mon quartier. Ça fait en sorte que c'est facile de se retrouver, puis ça fait une communauté. Je pense que c'est vraiment nécessaire et c'est essentiel, là.
Votre quartier qui est Hochelaga.
Exactement.
Alors, Hochelaga, bon, on le sent à travers U-Town, mais vous n'avez pas voulu vraiment préciser où se déroule et à quelle époque se déroule U-Town. Comment vous présentez votre bande dessinée?
En rapport avec le lieu et le temps, j'ai pris cette décision-là de faire un quartier qui était inspiré plutôt que du vrai quartier Hochelaga, parce que si ça se passait dans les années 90, mm-hmm. comme ça se passe dans le livre, il aurait fallu que je mette tout en place le contexte politique de l'époque, c'est-à-dire ça aurait été dur de pas parler du référendum, puis tu sais les événements qui ont inspiré U-Town n'était pas arrivé à cette époque-là. Fait que je tombais dans une espèce de non-sens chronologique. Alors, pour pouvoir m'inspirer des thèmes puis des événements qui se sont passés dans le quartier, qui ont inspiré le livre, j'ai décidé tout simplement d'outrepasser le fait que ça se passait à Montréal puis d'inventer un quartier fictif.
Ouais. À un moment donné, on lit la Tribune, je me dis « Ah, ça se passe peut-être à Sherbrooke ».
Oh, j'ai juste trouvé, je me cherchais un nom de journal qui n'était pas un journal de Montréal ou un quotidien. Puis bon, je me suis dit, je vais prendre la chose la plus générique possible, mais non, ça se passe pas à Sherbrooke.
Non. Alors, qu'est-ce que ça raconte, U-Town?
Ben, U-Town, c'est l'histoire, c'est surtout l'histoire d'un quartier ouvrier. Ça se passe sur quelques mois pendant un été milieu des années 90, si on veut. C'est l'histoire de Sam, de Samuel, qui est un artiste un peu perdu dans la vie, qui est mi-vingtaine, qui cherche un peu, qui habite dans une usine, pas désaffectée, mais une usine qui a été convertie en atelier d'artiste, puis en loft, pour vraiment une clientèle un peu marginalisée, mais assez éclectique. Puis Sam fait sa vie tranquille, il travaille pas très fort, il profite de son été, puis éventuellement, lui et les habitants de l'immeuble reçoivent un avis d'éviction et doivent s'en aller. On a 3 mois pour quitter les lieux. Mm-hmm. Puis après ça, l'immeuble va être démoli pour faire place à un projet de condo. Alors, Sam est un artiste un peu flambou, puis il obtient un contrat d'illustration, de peinture pour un café un petit peu plus huppé qui vient d'ouvrir. Puis là, il tombe dans une espèce de spirale de syndrome de la page blanche, tandis que le chronomètre roule pour son éviction.
Et l'histoire, est-ce que ça vous est inspiré par ce que vous avez déjà vécu? Comment l'idée est née?
Ben moi, personnellement, je touche du bois, je me suis jamais fait évincer.
Tant mieux.
Oui, tant mieux. mais je sais que c'est quand j'ai commencé à écrire, on commençait un petit peu à parler de la crise du logement. Puis c'est fou comment ça a pris de l'ampleur pendant les dernières années, depuis la pandémie. Mais ça a été inspiré de ce qui est arrivé dans les lofts Moreau. Duquel l'immeuble dans Newtown est directement inspiré. Les Loft Moreau, c'est une communauté d'artistes. C'est une ancienne usine de textile qui est à l'entrée de Schlager-Maisonneuve avec la tour d'eau. Puis en 2013, les habitants ont reçu un avis de non-conformité de la part des pompiers après des années de négligence du propriétaire. Puis il y a eu une brève, mais très intense bataille pour rester là. Puis finalement, ils ont tous fini par partir parce qu'il n'y avait pas de recours, vu que c'est pas des bails résidentiels. Puis ça m'a un peu marqué parce que je me disais, s'il n'y a plus de place pour les artistes, moi aussi, je louais un atelier, pas là-bas, mais dans le Myland. Puis ça m'a fait réfléchir à la place physique que les artistes occupent dans les quartiers centraux. Mm-hmm. Comment ils sont les premiers, généralement, à se faire tasser quand la gentrification s'installe. On leur attribue tout le facteur cool d'un quartier jusqu'à temps qu'ils puissent plus payer des loyers. Puis c'est des phénomènes qui existent dans toutes les grandes villes depuis vraiment longtemps. Mais ça a été un peu l'étincelle pour le projet.
Et ça fait 20 ans que vous travaillez sur Newtown? Vous avez travaillé 20 ans sur cette BD?
Non, j'ai pas travaillé 20 ans sur cette BD, mais c'est des personnages que je dessinais depuis que j'étais jeune. J'en avais jamais fait de BD. J'avais écrit beaucoup de d'itérations du scénario qui étaient plus ou moins réussies. Puis je pense que j'ai attendu d'avoir assez d'expérience en BD pour en faire une BD parce que c'était vraiment très intimidant comme projet. Mais quand je dis que je travaille, c'est que j'ai les personnages et un peu l'univers en dedans de moi depuis que je suis jeune.
D'accord.
Mais ça a été vraiment dans les dernières années que ça s'est lancé en BD.
Et Cab, est-ce que, comme le personnage de Sam, vous arrive d'être en panne majeure d'inspiration?
Je pense que ça m'arrivait un petit peu plus quand j'étais plus jeune. Mon personnage principal, il est dans le début, mi-vingtaine, fait que je reconnais la frustration de pas savoir pourquoi on fait de l'art. Je pense que la panne d'inspiration, quand on est professionnel, on n'a plus ce luxe-là. De toute façon, il y a trop de contraintes pour vraiment être en panne, là. Mais oui, c'est définitivement un sentiment que j'ai connu d'être fâchée, de ne pas pouvoir faire de l'art puis d'en vivre.
Et Sam est en panne aussi parce qu'il a tendance à faire le party très, très souvent. Il a un penchant pour l'alcool, pour le pot aussi.
Ouais.
Et est-ce que c'est important d'évoquer, parce qu'à un moment donné, on voit le père de Sam. Et c'est comme oui. S'il y avait une sorte de transmission là, malsaine.
Oui, c'est un détail extrêmement subtil. Le père de Sam n'est jamais nommé, il n'est jamais même montré au complet, mais il y a une case où on voit les bras d'un homme qu'on comprendre un ouvrier assis à un bar avec une bière, puis son enfant qui reproduit les mêmes comportements. Mais ouais, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose de c'est très typique, je pense, des quartiers ouvriers où des fois il y a des problèmes de consommation dans des populations qui ont perdu des emplois en usine. Je sais que c'est arrivé beaucoup dans Schlager, c'est pour ça que ça a été longtemps été décrit comme un quartier de malfamé. C'est parce que quand les gens ont plus de travail, ben ça retrouve à taverne.
Eh oui. Mais il y en a plein les bras, là, le personnage, parce que il y a cet avis d'éviction qui arrive à un moment donné. Il y a de la difficulté à payer son loyer. C'est un artiste. On sent qu'il a énormément de talent. On voudrait plus pour lui, mais il y a toujours une brique qui lui tombe sur la tête. À qui vous voudriez offrir cette BD?
Oh mon Dieu, je pense il y a des thèmes qui rejoignent beaucoup de gens. Je pense pas que je pourrais offrir ça à des catégories particulières de gens, mais les gens qui habitent en ville, des gens qui ont habité dans des quartiers qui changent, si ça peut aider les citoyens d'être un petit peu plus au fait que la façon qu'on aménage nos villes puis dont on gère notre parc locatif appartient à des intérêts privé, ben c'est peut-être le temps un peu de se retourner puis de voir ce qu'on peut faire en tant que communauté. Mais je pense que j'offrirais cette BD-là à n'importe qui, qui est un tant soit peu intéressé par les enjeux d'habitation.
Vous êtes préoccupé donc par les situations d'embourgeoisement qu'on appelle aussi gentrification. Est-ce que vous avez quelques pistes de solutions pour lutter contre la gentrification, CAB?
Ouais, je suis vraiment pas experte dans le domaine, mais je pense qu'on a tout intérêt à favoriser l'inclusion des artistes, puis de faire du logement social, de régulariser. Moi, c'est comme ça que je vois ça.
Et U-Town sera traduit en anglais. Est-ce que vous avez déjà des retours de lecteurs anglophones? Et traduit en anglais, déjà.
Il est traduit. Ouais. Il est sorti la semaine passée.
Oui.
J'ai pas fait vraiment... En fin de semaine, c'est le Comic-Con, fait que ça va être son premier événement public. C'est là que je vais avoir des retours, je pense, plus en face à face. Mais sinon, si je me fie aux critiques en ligne, je sais des fois qu'il ne faut pas lire toujours les commentaires puis tout, mais je pense que le livre est bien reçu. Moi, j'ai bon espoir qu'il va bien fonctionner. Comme je disais, c'est des thèmes qui touchent énormément de villes. C'est pas juste au Québec puis au Canada qu'on a des enjeux de logement. Je pense que toutes les grandes villes sont mises face à ça. Puis il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans des personnages qui se font tasser du portrait.
Et vous avez parlé d'avoir voulu faire un manga québécois. Est-ce que vous considérez que c'est un manga québécois? Parce que il y a ma recherchiste, Emiliane, qui me disait que ça correspondait peut-être pas nécessairement complètement à un manga. Moi, je connais pas grand-chose dans le manga.
je pense que c'est une question... Manga, ça veut tout simplement dire bande dessinée en japonais. Ça vient avec des codes graphiques puis oui. Des codes culturels qui sont propres à eux. Mais quand je parle de faire un manga québécois, moi, c'était plus en rapport avec le format du livre et la technique. Pas autant des codes, parce que on n'est pas au Japon. Puis bon, je voulais pas faire un livre qui s'appropriait les codes des mangas, même s'il y en a avec un million de sujets, mais par l'utilisation de l'encre, de la trame, c'est un livre qui est exclusivement noir et blanc, il n'y a pas de ton de gris. C'est ça, moi, je me suis basée sur un format plus... un format de papier, le format physique du livre, qui était plus proche d'un grand manga que des livres cartonnés qu'on a souvent l'habitude de voir... au Québec.
Et donc, vous avez dit que vous seriez au Comic-Con qui commence demain. On va pouvoir vous rencontrer quand?
Je vais être là toute la fin de semaine.
Toute la fin de semaine?
Propre table. Je suis dans une allée avec un paquet d'artistes québécois, dont des lauréats des BD-Lis. C'est le Festival de BD de Montréal qui gère une partie d'une allée. Alors, il va avoir vraiment une belle brochette d'artistes. Là, c'est le temps de venir faire signer des livres puis de venir rencontrer des auteurs.
Ah oui. Alors, ça se passe au Palais des Congrès à partir du 14 juillet, toute la fin de semaine. Cab, merci beaucoup pour cette entrevue. Bravo encore pour Youtan qui m'a fait verser une larme.
Oh, ben merci beaucoup. Bonne journée.
Bonne journée. Je rappelle que c'est publié aux éditions Front Froid dans la collection Nouvelle Adresse. Merci, Cab.